Le livre de Frog. Roman, discussion, échange.
J'aime le bruit d'un livre qu'on ouvre pour la première fois.
Le livre de Frog.
Littérature,
livre,
invité.
Nous sommes dans la réserve des livres rares.
Le livre de Frog.
Page. Marque-page.
Le livre de Frog.
Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Grenouille, on est ravis, Elodie et moi-même, de nous être une nouvelle fois échappés de notre fac de lettres pour ce deuxième numéro du livre de Frog. Je vous rappelle le concept de cette émission très simple. Chaque mois, pendant une demi-heure, nous mettons à l'honneur un des livres préférés d'un lecteur passionné que nous recevons pour en discuter avec lui. Aujourd'hui, nous vous proposons de nous plonger dans « N'ayez pas peur, Porno Palace » de Jack O'Connell. Et tout de suite, pour nous mettre dans l'ambiance de ce roman noir américain, nous commençons avec un extrait choisi par Cédric Fabre, notre invité du jour que je vous lis. Herman Kinsky a acquis le bâtiment pour une bouchée de pain et l'a rebaptisé « Hôtel Saint-Vitus ». Cela fait maintenant près d'un an qu'il est propriétaire en titre, mais il attend encore son premier client. Ce qui peut s'expliquer à la fois par l'emplacement de l'hôtel, Belvedere Street est situé à l'extrémité ouest de Bangkok Park, et par le fait que Herman ne s'est jamais donné la peine de réaménager les lieux. Le Saint-Vitus présente toujours l'aspect d'un couvent lugubre, croulant sous les icônes, austère labyrinthe de couloirs en bois tapissés, de gravures de saints obscurs, grotesquement martyrisés, et de cellules meublées de petits lits sans matelas, avec une cuisine dont l'unique concession à la modernité est l'eau courante. Mais Herman se moque pas mal d'échouer dans la carrière d'hôtelier. Il a besoin d'une profession à inscrire sur sa déclaration d'impôt, et celle d'aubergiste n'est pas plus mauvaise qu'une autre. Et puis il est immunisé contre l'atmosphère ténébreuse et spartiate du Saint-Vitus, contre les effluves gothiques, hantées, qui émanent de la moindre fissure du vaste édifice. Ça lui rappelle sa ville natale de Mézel, dans l'ancienne Bohême, la cité millénaire des golems et des alchimistes, qu'il a fui 3 ans plus tôt avec son fils unique Jacob, son neveu Félix et son plus vieil ami Gustav Welch, qui est également son homme de confiance et conseiller en affaires. Sa femme était morte en donnant naissance à Jacob, et le plus grand regret de Herman, aujourd'hui, c'est qu'elle n'ait pas pu voir le fruit de ses longues heures nocturnes, souvent sanglantes, où il rôdait furtivement aux abords de Caprova Boulevard, les mains gantées de mitaines. Julia adorait le cinéma, tout comme le gosse, tout aussi passionnément, comme si les films étaient une sorte de religion, une chose qu'il fallait prendre au sérieux. Si c'était les gènes de Julia qui avaient semé chez le fils la graine de la cinéphilie, c'était bel et bien la poissonnière, cette gouvernante de 15 ans que Herman avait engagée au ghetto Schiller, qui avait irrémédiablement intoxiqué le petit Jacob. Il avait commis l'erreur de sa vie en introduisant cette fille dans la maisonnée. Elle traînait Jacob au cinéma tous les jours, même à un âge où il aurait normalement dû être à l'école. Félix, dès le départ, s'était montré imperméable à l'influence de la nounou. L'artifice ne l'intéressait pas. Jacob, lui, avait été perdu dès l'instant où il était entré au curling. Et maintenant, Herman maudit le jour où un génie insensé a inventé ce machin qu'on appelle le cinéma. Qu'une femme perde son temps avec ce genre de fadaise, c'est une chose. Quand il s'agit d'un jeune homme, c'est une toute autre histoire. Et quand le dit jeune homme est l'héritier de la dynastie du crime la plus prospère de la ville, c'est le désastre assuré. Herman a essayé tous les moyens imaginables pour inciter Jacob à s'intéresser davantage aux affaires de la famille. Il a employé la manière forte, colère et sévérité. Il a employé la manière douce, patience et compréhension. Il a tempêté, cajolé, supplié, menacé. Il a même tenté de corrompre le fiston en lui offrant une 16 mm. Néanmoins, tout espoir n'est pas perdu. À l'horizon, se profile une affaire qui pourrait amarrer Jacob à la famille et, par la même occasion, rapporter un honorable bénéfice. Bonjour Erika.
Bonjour Elodie.
Bonjour Cédric Fabre.
Bonjour.
Bienvenue au Livre de Frog.
Merci.
On est ravis de vous accueillir. Alors, donc, c'était un extrait de Porno Palace dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, Cédric Fabre, vous êtes écrivain, journaliste, vous animez aussi des ateliers d'écriture. Votre dernier livre est donc paru à la Manufacture des Livres en 2013. Il s'agit de Marseille's Burning, qui a pour cadre Marseille au moment où elle a été capitale européenne de la culture. Vous avez aussi encadré pour la collection Asphalte Noir, donc Marseille Noire, qui sort ces jours-ci. Donc Marseille Noire, c'est un recueil de nouvelles qui explore la ville sous l'angle de la littérature noire. C'est le principe donc de cette très belle collection. Des auteurs qui ne sont pas du tout étiquetés polar d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, et qui sont marseillais de naissance ou d'adoption, en tout cas qui ont un lien avec cette ville. Alors, Porno Palace, on y revient. Ça va être difficile de le résumer, on va essayer quand même de planter le décor. Donc c'est un roman noir dont l'histoire se déroule dans la ville de Quincy-Gammon, qui est une ville post-industrielle, sombre, où sévit Herman Kinsky, donc on en a entendu parler dans cet extrait. Herman Kinsky a un fils dont il a bien du mal à faire l'héritier donc, de son empire, puisque Jacob ne rêve que de devenir cinéaste. Nous avons d'autres personnages, hein, les intrigues se nouent. Sylvia Kraft, photographe à ses heures perdues. Cinéphile, qui fait l'acquisition donc, d'un vieil appareil photo dans lequel il y a une pellicule entamée. Elle développe ses mystérieuses photos et ces photos vont lui faire prendre des chemins assez dangereux. Elle va croiser la route donc, de Hugo Schick, donc, le propriétaire de Porno Palace, qui est donc un cinéma monumental dans lequel il tourne des films et dans lequel il les projette. Et ce cinéma eh bien, attise les haines de certaines associations catholiques puritaines et attise aussi les convoitises, notamment de la part de Kinsky. Alors, première question très simple, pourquoi Porno Palace pour aujourd'hui ?
Ben, ce sont des choix difficiles de choisir des livres et de parler de livres. L'idée était de choisir un livre qui pouvait être un peu fondateur de ce qu'on fait quand on écrit. Moi, j'écris, je fais pas que ça. J'écris des romans, mais de façon un peu, une fois de temps en temps, quand je peux, quand j'ai le temps, quoi. Mais malgré tout, quand on écrit, on est un peu sous l'emprise, sous influence de certains écrivains qui nous ont marqués ou de certains livres. Il y a un seul livre, un one shot peut suffire à, peut-être pas à déclencher une vocation, mais à donner quelques idées, quelques pistes. Après, l'essentiel, l'écrivain, il le puise en lui. C'est à chaque écrivain à ses obsessions. Un livre vient un peu pour un livre qui marque, on suppose a posteriori, c'est qu'il a renvoyé finalement des images, un effet de miroir aux propres obsessions de l'écrivain. Donc moi je pense que c'est un peu ça. Jack O'Connell, il est très fort sur un plan, je trouve, c'est bâtir la géopolitique d'une ville en l'inventant de toutes pièces. D'une part, d'autre part, c'est un styliste incroyable. On a eu l'extrait. Merci, bravo pour la lecture. Quoi. C'était vraiment bien. C'était vraiment le ton. Donc, on choisit un livre un peu pour toutes ces raisons-là, puis de façon un peu aléatoire. C'était celui-là, ça aurait pu être un autre. Mais il y a aussi dernier élément, la force, je trouve, de Jack O'Connell, là où moi ça me parle, c'est que, bon, on dit souvent que le polar est une littérature de territoire, c'est-à-dire que les lieux façonnent les personnalités, les réactions des personnages, leurs comportements, et façonnent aussi les destins des personnages. Si on est à tel endroit, on a plus de chances d'avoir tel comportement, telle réaction, que si on vient d'un autre endroit. Donc moi, en écho direct à ce que je fais ou ce que je cherche à faire, il y a ce fait du terreau, du lieu, de l'omniscience, du côté monstrueux d'un lieu, d'une ville en l'occurrence, qui fait que à un moment donné, les personnages vont se développer, de s'épanouir, ne pas s'épanouir, devenir des gens, devenir des criminels ou non, quoi, devenir des gens bien, devenir. Enfin,
Oui, alors sur la question de, du territoire, hein, en effet, on a même, Erika et moi, pu deviner aussi les, la connivence avec O'Connell en lisant par exemple la préface de Marseille Noire. J'avoue qu'une phrase que j'ai lue après avoir lu Porno Palace, une phrase de cette préface, je me suis dit, c'est pas possible, de quelle ville parle-t-il ? De Quincy Gammon ou de Marseille ? Alors je la lis, « On devrait pouvoir définir une ville post-industrielle par la distance qui la sépare de son âge d'or. Parce que c'est au cœur de cet espace-temps, quand une page d'histoire glorieuse se tourne, que se forgent les mythologies et les fantasmes, les amertumes et les nostalgies qui contribuent à bousculer et refonder son identité. » Alors c'est vrai que finalement Marseille et Quincy Gammon sont assez parallèles sur cette question des villes post-industrielles qui ont connu un essor à la fin du 19e et qui dans les années 60, 70 déclinent. Et la question que je voulais vous poser, c'est comment, pourquoi ces villes-là, qu'elles soient fictives ou réelles, comment elles appellent la fiction ?
Alors ça c'est compliqué, on essaye tous de répondre à cette question et on en est finalement totalement incapable, j'allais dire. Y a effectivement cet élément de ville post-industrielle, c'est-à-dire qu'on est à la fin de quelque chose. Il y a des villes qui sont évidemment, de façon évidente, dans une espèce d'esprit de départ, de dynamisme, où il y a tout un avenir à construire, tout un imaginaire de construction, de bâtissement, de développement qui est possible. Et puis il y a des villes qui donnent, après ce sont des questions dans le temps, rien n'est figé, quoi. Puis il y a des villes qui, à un moment donné de leur histoire, donnent l'impression d'être arrivées au bout d'une page qui se tourne, puisqu'on parle de livres et de romans, ce qui ne veut pas dire que ces villes ne vont pas rebondir. Concernant Quincy Gammon, c'est la ville où vit Jack O'Connell, qui est une ville du Massachusetts, qui est Worcester, je le prononce mal, mais... et qui est une ville qui, Jack O'Connell m'a raconté, qui ressemble beaucoup à Quincy Gammon. Elle est post-industrielle, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de... il y a une espèce de... Il tire le fil du côté chaos et apocalypse. Mmh. Donc on est à la fin de quelque chose, et la fin de quelque chose, c'est autre chose que la peur de l'inconnu quand on va s'aventurer, affronter une situation pour bâtir quelque chose. C'est une peur plutôt des ténèbres, c'est à l'inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il n'y a plus rien, quoi. Mmh. Plus de, on est vraiment sur une espèce de truc de nos futurs, quoi. Le rapport avec le lien avec Marseille, il s'arrête là. C'est-à-dire que Marseille est aussi une ville qui a des aspects, des allures. Je ne vais pas trop m'avancer parce que, mais de ville post-industrielle, il y a une page qui est tournée. Il y a donc on est bien entendu pas dans cet état de déliquescence qu'on retrouve dans Porno Palace, mais sûr. Le lien sur le territoire, sur le côté post-industriel, il pourrait être là.
D'accord. Alors moi je vais revenir sur l'extrait initial qui nous fait déjà bien sentir justement, je trouve, cette ambiance lugubre qui parcourt un peu tout le roman, mais qui met aussi en valeur un personnage qui m'a paru très intéressant et qui est Jacob Kinski. Alors Jacob Kinski, c'est un peu l'incarnation, du moins au départ, de l'idéaliste rêveur qui s'est construit envers et contre tout par l'art. Donc lui, ce sont les films, comme pour d'autres, ce sont les romans. Mais toujours est-il qu'il s'est construit par l'art et que ces films lui permettent, du moins au départ, tel qu'il est présenté par l'auteur, de s'évader de la réalité et de Quincy Gammon et de ne pas participer à cette réalité. Et pourtant, progressivement, je trouve que le personnage, il se complexifie parce que c'est pas un Don Quichotte, Kinski, Jacob. C'est-à-dire, c'est pas un naïf qui n'a aucune conscience du monde qui l'entoure. C'est-à-dire, en fait, on se rend compte qu'il a parfaitement conscience du monde dans lequel il vit. Et c'est là où il est intéressant. Et du coup, je voulais vous demander, vous, comment est-ce que vous aviez perçu ce personnage ? D'abord, peut-être par rapport à ce côté idéaliste et rêveur qu'il incarne, et puis par rapport aux autres personnages aussi, ses rapports, notamment avec sa famille.
Ça, c'est intéressant et ça rejoint ce que disait Elodie avant, c'est-à-dire que comment, à travers, on bâtit une œuvre de fiction à partir de choses réelles. Lui, le Jacob, il est l'héritier d'une famille de... Enfin, c'est la pègre, quoi. C'est la toute-puissance de la pègre qui a la main mise sur la ville. Et lui, il est... tout ce qu'il veut faire, c'est réaliser le film expressionniste ultime. Mais finalement, c'est celui qui va du côté de la fiction, du côté du film, de l'image, du monde fantasmé, donc, qui a un regard sur le réel, qui est finalement... qui en ressort avec une acuité absolument extraordinaire. C'est ce que les écrivains défendent aussi. À partir du moment où on fait de l'art, donc on sublime, on a une vision du réel qui est extraordinaire, quoi, qui est une acuité, une lucidité.
Ce rapport à l'image, il va jusqu'à cette passion de l'image chez Jacob, il va jusqu'à l'excès, jusqu'à le rendre extrêmement dangereux. Alors il y a une scène qui nous a beaucoup plu à toutes les deux, c'est quand, alors qu'il est menacé par son cousin Félix, qui vient pour lui régler son compte, bon, tout se retourne et c'est Jacob qui va l'exécuter. Et Jacob transforme, met en scène l'exécution, transforme ça, il voit tellement à travers le prisme d'une caméra en termes de plan qu'il met ça en scène. Et Jack O'Connell joue sur des choses très très intéressantes. Alors je cherche ma page. C'est-à-dire que Jacob dit tu as véritablement l'air damné, Félix. Tu es d'un naturel stupéfiant. Bah oui, forcément, il a sûrement un flingue sur la tempe, donc ça aide beaucoup à être naturel. Sur la page, on n'a plus une page de roman, on a tout à coup une page de scénario. C'est-à-dire plan serré, le damné, plan moyen, la gare de marchandises, etc. Je voulais vous demander finalement ces transpositions-là, parce que ce roman est pétri de cinéma. Est-ce que vous trouvez ça efficace ici? Nous, on a trouvé ça très efficace, mais c'est vrai que comme c'est constant dans le livre, on pourrait penser que ça peut aussi s'essouffler, quoi.
Je ne sais pas si je vais arriver à répondre vraiment à votre question, parce que ce qui me vient à l'esprit, c'est que ce roman, toute l'œuvre de Jack O'Connell, ce roman s'inscrit dans une œuvre, c'est-à-dire qu'il y a cinq romans qui sont sortis. C'est une monographie de Quincy Gammon. C'est-à-dire qu'il va développer des histoires au sein d'une ville imaginaire qu'il a inventée. Il va étudier les rapports de force, la violence sociale et tous les extrêmes. D'un côté, il joue beaucoup sur les symboles. Donc d'un côté, par exemple, dans le passage que vous avez lu, la pègre est installée dans un ancien couvent, c'est-à-dire qu'on a le vice et la vertu, c'est deux pôles, et ça se passe comme ça. Après, c'est un roman d'une densité. D'abord, il y a une atmosphère, la création de cette géopolitique, la description, c'est phénoménal. Et en plus, il y a un nombre de, je trouve, c'est un roman superbement intelligent. Moi, j'aime les romans intelligents, je veux dire ça. Il y a un nombre de symboles, d'images, le bouquin se pose une fois qu'on l'a refermé par strates, ça dure, c'est les questionnements, les images se développent après, quoi. Pour répondre à la question concrètement, Jacob, c'est très simple. À partir du moment où il s'intéresse à l'art, il fait des images, l'art ne révèle pas que la part de lumière des individus. C'est à partir du moment où il s'intéresse à l'image qu'il va devenir encore plus violent, agressif et peut se révéler, s'avérer un véritable criminel parce qu'il maîtrise... les images et le regard sur le cinéma.
Alors, pour revenir au cinéma, justement, dans le roman, ce cinéma, il est présent partout. J'aime beaucoup l'expression d'Élodie qui dit « le roman est pétri de cinéma » et c'est exactement ça. Et les dialogues entre les deux arts, littérature et cinéma, sont constants et multiples et ils peuvent même aller parfois jusqu'à la réécriture. Alors, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir des romans qui sont adaptés ou réécrits au cinéma et là, à un moment donné, c'est un peu l'inverse que fait Jack O'Connell et j'ai trouvé le passage assez osé et assez drôle. C'est le moment où il y a Prop qui en fait propose à Sylvia, donc la photographe en herbe, de voir une version inédite du Magicien d'Oz. Donc Magicien d'Oz, effectivement, le grand conte enfantin cinématographique par excellence pour les Américains. Et là, la projection commence. Alors déjà, c'est drôle parce qu'on est vraiment amené à revoir le film, mais en lisant le roman. Donc il y a une espèce de jeu, comme vous dites, de strates qui est très fort. Et puis surtout, au O'Connell, il ajoute une scène en fait qui aurait dégénéré pendant le tournage. Et cette scène montre Dorothée, donc la gentille petite fermière innocente à l'écran, qui d'un coup chevauche et embrasse fougueusement et passionnément l'épouvantail qui est un autre des personnages emblématiques du film. Et donc c'est intéressant parce que là, O'Connell, justement, il joue du dialogue entre les arts et il réécrit véritablement ce grand classique américain enfantin. Et donc nous, avec Elodie, on a voulu dans l'émission faire un petit clin d'œil en nous inscrivant un peu dans la manière O'Connell, mais peut-être de manière un peu moins osée, en proposant une réinterprétation, cette fois-ci non pas d'une scène, mais d'une chanson mythique du Magicien d'Oz qui est Over the Rainbow, qui a été chantée à l'origine par Judy Garland. Et qui a été reprise en 1993 par Ease, qui l'a en fait en quelque sorte mixée avec la chanson de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Et donc on écoute cette chanson, on a voulu la passer, qui nous a justement paru intéressante pour prolonger cette idée de dialogue qui est constante dans le roman entre les arts, et après on en reparle. Cette idée de dialogue, elle est liée à une autre idée dans le roman, qui est celle de codage, désencodage, réencodage, qu'explicite à un moment O'Connell, et qui en fait se rattache également à une réflexion qui parcourt tout le roman et qui est celle sur l'image, et notamment sur l'image artistique. Donc vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure, donc on va y revenir. On a plusieurs personnages dans le roman qui croient réellement à un pouvoir et à une capacité de l'image artistique, d'abord à saisir la réalité dans sa vérité la plus pure et la plus instinctive, et ensuite même à sa capacité, à son pouvoir, à pouvoir changer, à influencer profondément la vision de celui ou de celle qui est amené à voir l'image artistique. Alors, cette réflexion, elle est amorcée dans le roman surtout à travers la photo et le cinéma, mais on peut dire aussi qu'O'Connell, lui, avec son roman, fait également cela, puisque l'écrivain construit des images. Donc, j'ai envie de vous poser la question à laquelle j'attends déjà une réponse presque connue, mais est-ce que vous vous placez plus du côté de Herman Kinsky, qui voit dans l'art un artifice esthétique inutile et détaché de toute réalité, ou est-ce que au contraire vous placez plus du côté de Jacob, qui lui croit en une capacité de l'art, qu'il soit cinématographique, photographique, littéraire, à saisir et à expliquer le monde, et même parfois à en transformer la perception?
On pense avec nos humeurs, donc on va dire qu'aujourd'hui, là, à 7 minutes, je vais plutôt pencher du côté de Jacob. Ouais. Après, ça évolue, quoi, je sais pas. Mais c'est toute cette réflexion, elle est compliquée, elle est complexe, on peut y passer des heures. Encore une fois, O'Connell, c'est vraiment une réflexion sur l'image, sur le monde. Il y a des symboles, ces flics sont d'anciens jésuites, on est entre l'inquisition, le steampunk, les bikers, l'obsession de l'Amérique pour le péché, tout ça avec des freaks, du cirque, on est dans ce monde-là, on est entre le pulp, la BD, et les fondamentaux de la Bible et du Nouveau Testament, etc., etc., etc. Voilà, je veux juste dire un truc sur O'Connell, très court. C'est un écrivain culte, c'est un écrivain qui est un des écrivains qui a été quand même soutenu et encouragé par James Ellroy. Et on est au-delà du simple polar, mais on est au-delà du polar. On est vraiment dans une grande œuvre littéraire.
Alors, peut-être rapidement, une dernière question avant de passer à notre chronique habituelle. J'ai lu une phrase d'O'Connell sur laquelle je voulais vous faire rebondir. Il dit qu'il partage une question avec d'autres écrivains. Quelle est la nature de notre réalité? Et O'Connell répond lui-même à cette question en disant « Écrire un roman est la meilleure façon d'y répondre ». Et je voulais savoir si ça marchait pour Marseille, ça. Est-ce que le choix de la fiction...
Oui, parce qu'à force de traquer de l'objectivité, de la réalité, on n'a pas de... Il faut fantasmer pour penser, donc il faut sublimer, et donc la fiction, elle remplit ce rôle-là, je pense.
Le livre de Frog.
Pour terminer notre petite chronique habituelle, Erika, tu as remonté la canne-bière ce matin pour attraper quelques idées de lecture.
Oui, effectivement, je suis allée rencontrer Geneviève à la librairie Maupetit qui a eu la gentillesse de me conseiller deux romans et une revue qui font partie donc de l'actualité littéraire. Alors, premier roman, c'est celui d'Edouard Kelsey Moore, publié chez Actes Sud et qui s'appelle Les Suprêmes. Donc, Les Suprêmes, ça nous raconte l'histoire d'une amitié entre trois femmes noires. Cette amitié, elle naît au début des années 60 dans une petite ville de l'Indiana et on peut suivre cette amitié tout au long des années. Par le truchement de cette amitié et de ces femmes, on va aussi également aborder toute la mentalité et l'histoire des États-Unis, notamment par rapport à la post-ségrégation. Donc, comment est-ce que cela a pu être vécu par ces femmes? Donc, voilà, on nous a dit que ce livre était très attachant, drôle, émouvant à la fois, et s'attachait vraiment à cette histoire d'amitié et à ces femmes, ce qui me semble intéressant parce que, très personnellement, c'est vrai que je trouve que l'amitié est un thème qui est peu exploité en littérature et c'est souvent dommage. Le deuxième ouvrage que Geneviève nous a conseillé, c'est Yamabuki, également chez Actes Sud, qui est un roman d'Akishi Masaki, un auteur d'origine japonaise, mais qui écrit en français, puisque elle habite au Québec. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui fête ses 56 ans de mariage et qui, en fait, va tout simplement nous raconter cette grande histoire d'amour qui a finalement fait toute sa vie. Donc je pense que, alors Geneviève le vend très bien, mais je pense que c'est vraiment un ouvrage qui est pour les amoureux du style, parce que la libraire a vraiment insisté sur l'écriture de l'auteur, une écriture qu'elle nous a dit ciselée avec le raffinement de l'art de vivre japonais, j'ai trouvé ça très joli. Donc voilà, il y a beaucoup d'économies de moyens, mais en même temps une grande intensité de sentiments, suivant ses dires, donc ça donne envie, et en tout cas, moi, je l'ai acheté, donc voilà, et elle m'a convaincue. Enfin, pour finir, quelques mots d'une revue qui commence à être assez connue, mais qui mérite de l'être encore plus, c'est 21. C'est une revue qui paraît à chaque saison, donc là on est au numéro du printemps, logiquement. Et cette revue s'inscrit dans ce qu'on appelle le journalisme littéraire. On y trouve des articles, des reportages qui sont longs, il faut bien le noter, c'est agréable aussi, des nouvelles, des textes d'auteurs, des reportages photos, des dessins, et tous abordent d'une manière ou d'une autre l'actualité, les problèmes de la société, avec toujours une approche un peu plus artistique ou un peu plus littéraire, ce qui lui donne sa patte originale. Donc voilà, les deux romans donc, qui sont Les Suprêmes, Yamabuki et une revue 21 pour cette chronique ce mois-ci.
Bah merci Erika, on arrive au terme de cette émission. Merci infiniment Cédric Fabre d'être venu.
Merci de votre invitation.
Et à très bientôt, Erika, au mois prochain.
Eh bien oui, merci, moi aussi, hein, Cédric Favre, et puis à très bientôt.
Merci.
Au revoir.
J'aime le bruit d'un livre qu'on ouvre pour la première fois.
Le livre de Frog.
Littérature, livre, invité, page.
Marque-page.
Nous sommes dans la réserve des livres rares.